When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.
Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec bien sûr celle qui m'accompagne comme tous les week-ends, Marine Sabourin, bonjour.
Bonjour Anthony, bonjour à tous.
Avant de poursuivre, voici l'éphéméride d'Alessandra Martinez de votre samedi 23 mars.
Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises au design norvégien et au confort unique.
Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très joyeuse fête à tous les polycarpes. Soyons honnêtes, ils ne sont sans doute pas très nombreux, puisque depuis un siècle, seulement 3 polycarpes sont nés en France en 1945. Et pourtant, leur saint patron est une figure immense de l'aventure chrétienne. Il est considéré comme le dernier témoin de l'ère apostolique, c'est-à-dire qu'il est le dernier de ceux qui ont directement connu des apôtres de Jésus. Saint Polycarpe est en effet un élève de l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste, celui qui était présent au mont du Golgotha quand le Christ a été crucifié. On sait aussi de lui qu'il a été le premier évêque de la ville de Smyrne, dans l'actuelle Turquie, plus connu sous le nom d'Izmir. Polycarpe a été brûlé vif vers l'an 167. Sachez qu'indirectement, la France lui doit beaucoup, puisque c'est lui qui a formé Saint Irénée, le premier évêque de Lyon. Et voici pour nourrir notre méditation l'extrait d'une lettre adressée par saint Ignace d'Antioche à saint Polycarpe. Que le baptême demeure comme votre bouclier, la foi comme votre casque, la charité comme votre lance. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
Détendez-vous, confortablement installé. C'était votre programme avec les fauteuils et canapés Stressless.
L'information de la matinée, c'est évidemment la météo du week-end. Et la météo, c'est avec Karine Durand.
La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
Retrouvez la météo avec Body Minute. Un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
Bonjour Karine, malheureusement, il faut s'attendre ce week-end à une baisse généralisée des températures.
Oui, regardez l'animation de la masse d'air. On voit bien le changement entre ce samedi et l'air froid matérialisé en bleu qui descend progressivement sur la France. On aura à nouveau une petite hausse en début de semaine prochaine. Nous sommes revenus ici à vendredi et samedi. On voit bien la descente de cet air doux vers le sud et surtout l'arrivée de cet air bien plus frais poussé par un flux de nord-ouest avec un temps plus dégradé. On assiste à un changement de temps radical. Regardez l'évolution sur les cartes, justement, avec ces petites averses qui tombent ce matin sur une large moitié nord, des averses un petit peu plus fortes, notamment sur le centre ou encore la Bourgogne, des chutes de neige sur les Vosges, le Jura ou les Alpes, entre 800 et 1000 mètres d'altitude, et également de bonnes pluies assez copieuses sur les Pyrénées. Le sud-est reste pour le moment à l'écart, mais avec du vent. Au cours de l'après-midi, il y aura du vent partout, quasiment pour tout le monde, un fort vent d'ouest pour la moitié nord, avec un régime de giboulées, des giboulées typiques du mois de mars, avec parfois de la grêle, des coups de tonnerre, de fortes averses sur la moitié nord. Au sud, toujours du beau temps, mais avec un fort vent assez gênant. Les températures sont en chute libre partout, mais surtout sur la moitié nord, avec à peine 6 degrés à Paris ce matin, 12 degrés pour le Pays Basque. Et au cours de l'après-midi, on sent bien la différence sur la moitié nord. Encore une fois, au cours de l'après-midi, une dizaine de degrés sur la moitié nord, tandis qu'au sud-est, au cours de l'après-midi, nous restons encore dans des températures printanières, mais ça ne va pas durer. Profitez du beau temps et de la douceur au sud-est, car la semaine prochaine, ça va être très dégradé.
C'était la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
Comme chaque week-end, j'ai la chance de les avoir avec moi pour commenter toute l'actualité. Guillaume Bigot, bonjour.
Bonjour Anthony Favalli, bonjour à toutes et à tous.
Et face à vous également pour commenter cette actualité, Michel Taube.
Bonjour cher Anthony.
Éditorialiste et fondateur du site Opinion International, Célia Barotte également du service de justice de CNews. Voilà les thèmes de votre journal de 7 heures. À la une, un commando terroriste qui prend d'assaut une salle de concert, au moins 60 morts et plus de 100 blessés, selon un bilan encore provisoire. Ça s'est passé hier soir en Russie, dans la banlieue de Moscou. Une attaque revendiquée par l'État islamique et qui nous rappelle bien sûr avec effroi les attentats de Paris en 2015. Si depuis lors la menace terroriste ne nous a jamais quittés, y a-t-il une probabilité qu'une attaque d'une telle ampleur se produisent à nouveau dans notre pays? Cela fera partie des questions auxquelles nous tenterons de répondre ce matin. L'idéologie islamiste qui infiltre les cerveaux des plus jeunes. En France, dans le département du Nord, un jeune de 14 ans a été interpellé mercredi, soupçonné d'avoir projeté un attentat contre un centre commercial à Lille. Il lui est également reproché d'avoir partagé la propagande de l'État islamique. Les dernières informations de notre journaliste Célia Barotte du service police-justice de CNews. Et puis cette question, comment exister politiquement, trouver sa place entre le Rassemblement National et la majorité? Comment concilier une droite anti-européenne et une droite pro-européenne? C'est la formule magique que les LR vont devoir trouver aujourd'hui puisqu'ils lancent leur premier grand meeting de campagne pour les élections européennes à Aubervilliers. Et les sondages ne sont pas bons, on en parle avec nos invités. Tout d'abord, on commence avec l'horreur qui a frappé la Russie hier soir dans la banlieue de Moscou. Une attaque terroriste qui a fait au moins 60 morts et plus de 115 blessés selon un dernier bilan. Les faits se sont déroulés vers 20h15 dans une salle de concert où devait se produire un groupe de rock. Un commando armé a fait irruption parmi les spectateurs.
Oui, l'État islamique a revendiqué cet attentat et précise que son commando a regagné la base en toute sécurité. Vladimir Poutine, de son côté, souhaite un prompt rétablissement aux victimes, mais ce n'est pas encore exprimé publiquement. Retour sur cette attaque glaçante avec Juliette Sadat.
Sur ces images, les spectateurs venus assister au concert s'installent à leur place. Un cri retentit. S'ensuit plusieurs longues minutes de tirs nourris dans la salle. La scène s'est déroulée dans une salle de concert de la proche banlieue de Moscou aux alentours de 20h ce vendredi. À l'extérieur, les proches de spectateurs se massent devant le bâtiment et assistent impuissants au va-et-vient des secours. Certains n'ont aucune nouvelle de leurs proches.
À 19h59, ma femme m'a envoyé une photo. Je lui ai répondu et elle a lu ce message, mais n'a pas lu le message suivant. Ça s'est produit littéralement en une minute. La police n'a rien pu me dire, ni les médecins. Personne ne sait rien. Évidemment que je suis paniqué. J'ai essayé d'appeler 5 hôpitaux. Toutes les lignes sont occupées. Je ne sais pas quoi faire.
Au cours de l'attaque, un violent incendie s'est déclaré. Les flammes ont dévoré une grande partie du bâtiment tout au long de la nuit. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Le Kremlin dénonce un attentat terroriste sanglant.
Effroyable attaque qui nous rappelle évidemment le mode opératoire des attentats de Paris en novembre 2015, notamment l'attaque du Bataclan.
Oui, beaucoup parlent d'un Bataclan russe. Il faut être solidaire du peuple russe qui là est meurtri dans un moment plus bien particulier, parce que puisque l'État islamique a revendiqué cet attentat, évidemment sans prendre un concert, sans prendre des personnes qui passent une soirée détente, sans prendre les personnes qui aiment la musique. C'est tout cela que vise également l'État islamique, au-delà des aspects géopolitiques sur lesquels on reviendra peut-être. Mais voilà, c'est une attaque à tout ce qui est de l'ordre de la civilisation et de la liberté et de la joie de vivre. Donc il faut être solidaire du peuple russe. Et effectivement, en France, ça nous rappelle le Bataclan. C'est le Bataclan russe, malheureusement, que vivent aujourd'hui les Russes.
Et ça nous rappelle peut-être aussi que ces groupes terroristes, Guillaume Bigot, ont encore la puissance de frappe pour opérer des attaques sur le mode opératoire du commando, ce que l'on n'avait pas vu en tout cas en France, en Europe depuis un certain temps.
Exactement, c'est un peu signé et là c'est revendiqué et les revendications de l'État islamique sont très fiables. Donc oui, c'est quelque chose qui est très différent dans les capacités de nuisance, de terrorisme, d'action spontanée ou d'action d'individus plus ou moins isolés. Ils ne sont jamais totalement, mais enfin voilà. Là, il y a vraiment une préparation militaire. Ce sont des gens aguerris qui étaient très entraînés. Mais on parle de Bataclan russe parce que ça nous parle à nous. Mais vous savez, la Russie, alors, il y a les attentats de 99 avant l'arrivée au pouvoir de de Vladimir Poutine. Il y a les attentats de 2002, les attentats de 2004, déjà dans un théâtre à Moscou, ça avait fait 128 morts. C'est un cauchemar et ça n'a jamais cessé en 2016, en 2017, en 2018. Encore très récemment, il y a une synagogue qui avait été visée et l'attentat a été déjoué. Donc la Russie n'a jamais cessé d'être en proie à ce terrorisme islamique.
Très bonne question que vous évoquez justement. On est avec Oleg Kobzev. Bonjour, vous êtes géopolitologue, spécialiste de la Russie. Et j'allais vous poser justement cette question. La Russie est particulièrement ciblée par le terrorisme islamiste, au même titre que les pays occidentaux, comme le disait Guillaume Bigot à l'instant.
J'irais jusqu'à dire plus que les pays occidentaux, puisque vous avez une très grande population musulmane en Russie. Il faut rappeler que la Russie est le pays d'Europe qui a le plus de musulmans sur son territoire, et ce sont des musulmans qui ont été souvent opprimés, et opprimés durement, réprimés durement, notamment les Tchétchènes. Il y a eu beaucoup d'attentats tchétchènes parmi ceux que votre collègue vient d'évoquer sur le plateau, et puis il y a eu des Tchétchènes et d'autres minorités musulmanes qui se sont livrées à des actes de terrorisme. Il faut rappeler aussi l'attentat de Beslan, une école où il y a eu 300 morts, surtout des enfants. Alors ça, c'est, voilà, il y a tout un réservoir en fait de musulmans mécontents qui ont vécu des périodes de guerre comme le vivent les Ukrainiens en ce moment, et donc ils sont très 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 facilement recrutables, pardon pour l'expression, on peut les recruter très facilement, je dirais beaucoup plus que quelques cerveaux un peu dérangés parmi des jeunes en France. Il faut dire aussi une chose, c'est que les autorités russes étaient quand même prévenues.
Pardonnez-moi, Oleg Kobzev, j'allais justement vous poser cette question. Comment se fait-il aujourd'hui qu'une attaque d'une telle ampleur soit possible dans la banlieue de Moscou? Alors, on a peut-être cette image, et peut-être est-elle surfaite d'un État... en tout cas d'un État plus ou moins policier, avec une force en tout cas policière assez importante, avec des forces de renseignement aussi, une puissance de renseignement très très compétente, et cette idée que Washington avait prévenu Moscou d'une possible attaque. On se demande comment c'est possible aujourd'hui.
Ah bien, c'est très possible quand on investit tant d'énergie et de force des services secrets pour courir après des gens qui simplement ont montré une pancarte en disant non à la guerre. Il y a des milliers de personnes qui sont arrêtées pour des peccadilles. Et le résultat, c'est qu'on a laissé passer le risque le plus important. Washington, là, ou plutôt l'ambassade l'ambassade des États-Unis à Moscou avait prévenu ses citoyens. Il y avait donc des alertes dans les emails et par téléphone à ses citoyens, leur recommandant il y a 2 semaines de ne pas fréquenter des lieux où il y avait des grands rassemblements. Et puis, ils ont prévenu les autorités russes. Là-dessus, la réaction, c'était le 19 mars dernier, Poutine qui dit que c'était de la provocation et que tout cela, c'était pour faire peur à la population russe.
Cette attaque, elle peut avoir des conséquences sur la politique, des conséquences politiques pour Vladimir Poutine lui-même ?
Ah, très certainement, parce que ça peut, bon, ça va très certainement les déstabiliser, et bon, on voit déjà qu'ils sont sous le choc, et évidemment, il va y avoir très certainement une réaction, on va serrer encore plus la vis, ça peut y avoir encore plus d'autoritarisme, de surveillance de la population. Et ce qu'on peut craindre également, c'est qu'on va essayer de faire un lien avec les Ukrainiens. Alors, le président Medvedev, dès les premières minutes de l'attentat, s'est exprimé dans les médias en disant que c'est un coup des Ukrainiens. Et on va vraisemblablement inventer une histoire selon laquelle il y a des complicités ukraino-islamistes.
Et inversement, inversement, les Ukrainiens disent que c'est aussi un coup des services secrets russes pour pouvoir accuser l'Ukraine derrière. Donc ça, c'est selon vous, ce sont des hypothèses qu'on peut déjà écarter ou pas ?
Alors je pense, oui, ce que disent les Ukrainiens, ça on peut l'écarter. Oui, ça, il est clair maintenant, depuis quelques heures, il y a de plus en plus d'informations qui commencent à circuler. Notamment, encore une fois, ça vient plutôt de Washington, qui semble avoir été bien au courant. Et alors, il semblerait qu'il y ait une piste afghane, mais ça, je le dis avec la plus grande prudence. Ça a été, et apparemment, ça a été, du moins, les cerveaux de cette attaque étaient en Afghanistan, bien que je penche plutôt sur une théorie selon laquelle c'est une initiative vraiment locale de musulmans, de djihadistes locaux, qui a été, disons, validé par des gens à l'extérieur faisant partie de l'État islamiste. Mais encore une fois, je pense que vraiment c'est la piste djihadiste est la plus vraisemblable. On a vu effectivement une instrumentalisation, et ça c'est ce qui peut se passer, une instrumentalisation des attentats terroristes pour accuser qui on a envie d'accuser.
D'accord.
Ce
sont des hypothèses, en tout cas, que vous êtes en train d'écarter pour le moment. Merci, Oleg Kobzev, je le rappelle, spécialiste de la Russie, géopolitologue, d'avoir accepté notre invitation. Vous vouliez réagir, je vous ai vu, Guillaume Bigot et Michel Taube.
Oui, il n'y a pas de concurrence dans l'échelle de l'horreur des victimes. Évidemment que la Russie est la cible de l'État islamique, parce que Poutine a toujours été très proche du régime Assad en Syrie, parce qu'il est intervenu pour participer à la lutte contre l'État islamique, parce qu'évidemment il y a eu deux guerres de Tchétchénie déclenchées par la Russie et dont beaucoup de Tchétchènes se sont radicalisés et islamisés. Mais je rappelle aussi que vous avez aussi l'État islamique qui agit en Europe occidentale, qui vise la France, première communauté musulmane d'Europe occidentale, et de très très loin, et que oui, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, Anthony Favalli, la Russie, mais aussi l'Europe occidentale, est la cible de l'État islamique. Je rappelle qu'en septembre dernier, il a visé directement la Suède et la France dans un appel à des attentats terroristes.
On va évaluer dans quelques instants avec Claude Moniquet, qui est aussi en ligne avec nous, la menace terroriste aussi en Europe. Guillaume Bigot.
Bon, très rapidement, d'abord, quand on a une information, quand on prévoit une attaque, un attentat, ça a été le cas pour le 11 septembre, il y avait plus que des bruits de fond avant le 11 septembre. Il y a même une alerte officielle de la CIA. Deuxièmement, en ce qui concerne les attentats, par exemple, du 13 novembre, les autorités s'attendaient à un attentat. Ils savaient que le commando était là, ils savaient que ça allait frapper, etc. Le problème du renseignement, ce n'est pas d'avoir l'information qu'il va y avoir une attaque. L'information, c'est quelle attaque, quel jour, quelle heure pour qu'on puisse intervenir. C'est ça le problème. Sinon, c'est une aiguille dans une meule de foin. C'est très important de le dire parce que c'est toujours le cas dans les attaques terroristes. Donc oui, il savait. Bon, voilà. Ensuite, deuxièmement, la réaction de Poutine, elle n'est pas surprenante. Poutine, c'est un homme qui vient des services. Donc, de toute façon, il est habitué en permanence à ces coups tordus, à ces manipulations, à ces tentatives de déstabilisation. Il y a une dimension un peu paranoïaque chez lui. Donc c'est pas du tout étonnant qu'en pleine guerre, il ait réagi comme ça.
Claude Moniquet est avec nous. Bonjour Claude Moniquet, vous êtes spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement. Mais merci de répondre à nos questions ce matin. Qu'est-ce que nous dit cette attaque de l'organisation du groupe État islamique aujourd'hui? Est-ce qu'il a réussi à reconstituer des forces telles qu'il est capable aujourd'hui de projeter des attaques commando à l'étranger?
Alors ça nous dit deux choses. Ça nous dit d'abord effectivement que l'État islamique a aujourd'hui quelques branches dans le Sahel, bien sûr, mais manifestement aussi en Afghanistan et en Asie centrale, et par extension probablement en Russie, qui lui permettent d'être extrêmement actif et extrêmement présent, non pas sous la forme d'attentats individuels, comme on les a connus en France et en Europe depuis 2017, mais sous la forme d'attentats structurés par des groupes lourdement armés et probablement entraînés. Et ça nous dit une deuxième chose, c'est que symboliquement, pour l'État islamique, hier soir, ça a été un immense succès. C'est la première attaque massive dans un pays européen, hors des frontières de territoire de djihad classique, depuis 2017.
Oui, c'est une victoire en termes de communication pour eux, effectivement.
C'est une énorme victoire en termes de communication, en termes, entre guillemets, stratégiques pour eux, parce que ça montre qu'après ce qu'on a appelé la quasi-disparition de l'État islamique, quand il a perdu sa territorialité au Moyen-Orient en 2017, mais ça prouve qu'il est de nouveau présent et c'est évidemment un signal d'alerte important pour des pays européens, dont la France.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il est présent simplement en Asie centrale et en Russie, ou est-ce que ce type d'attaque est possible chez nous aujourd'hui, à l'approche des JO? On rappelle ce que nous a dit Gérald Darmanin déjà, une attaque de type commando est possible en France. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut effectivement craindre?
Alors c'est quelque chose qui est possible, clairement. Depuis mai dernier, depuis mai 2003, Gérald Darmanin et d'autres ont averti sur le retour de cette menace structurelle de l'État islamique et des groupes djihadistes en Europe et en France particulièrement. Et puis depuis le 7 octobre, on a eu partout en Europe, enfin en Allemagne, en France, au Danemark, en Autriche, on a interpellé des gens qui étaient soit liés pour certains, mais plutôt rarement, directement au Hamas, soit ce qui se revendiquait de l'État islamique et qui préparait des attentats en réseau, que ce soit à Berlin, à Vienne ou à Copenhague. Donc pourquoi pas la France demain, oui.
On sait par exemple que pour nous, l'un des enjeux des JO, c'est le criblage des personnels et des bénévoles qui vont participer à cet événement. 1 million de personnes. Est-ce qu'on sera capable de mener ces enquêtes pour 1 million de personnes d'ici là? On sait que pour l'instant, il y a 150 000 enquêtes réalisées, 715 personnes écartées.
Non, on ne sera pas capable de le faire. Alors tout le monde, évidemment, officiellement dira que oui, la situation est sous contrôle, etc. Mais il faut être très clair, on ne réalise pas 800 000, il reste à peu près 800 000 enquêtes de sécurité à faire. On ne réalise pas sérieusement 800 000 enquêtes de sécurité individuelles en 4 mois, c'est pas possible. Alors, d'autant plus qu'il y a un autre risque. On est en face d'acteurs intelligents, hein, on l'a vu hier à Moscou. Daesh ne s'est pas réveillé hier matin en disant « Tiens, je vais attaquer les Jeux Olympiques à Paris ». Si c'est un projet, c'est peut-être un projet qui est sur les rails depuis des années. Peut-être qu'il y a eu l'implantation sous un couvert ou une couverture ou l'autre d'une cellule opérationnelle dormante à Paris qui est là depuis 1 an ou 2 et qui est prête à frapper. Donc le risque est réel et il est important et il doit être pris en compte, bien entendu, et il l'est. La question après, c'est savoir si on pourra empêcher ce risque de se transformer en un attentat.
Merci beaucoup Claude Moniquet, je le rappelle, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Le rappel de l'actualité à 7h17, c'est avec vous Marine Sabourin.
Après le veto d'une résolution américaine mentionnant un cessez-le-feu à Gaza, le vote d'une proposition alternative est programmé lundi en Conseil de sécurité de l'ONU. Un vote initialement prévu aujourd'hui, 8 des 10 membres non permanents du Conseil préparent un nouveau projet de résolution. Bruxelles propose d'imposer des droits de douane prohibitifs sur les produits agricoles russes importés dans l'Union européenne. Actuellement, la majorité de ces produits, notamment les céréales, en sont exemptés. Objectif, assécher les revenus permettant à Moscou de financer la guerre en Ukraine, selon le commissaire européen chargé du commerce. Et puis le site d'Action organise sa 30e campagne de collecte de dons jusqu'à demain. Objectif, sensibiliser les jeunes. En France, 200 000 personnes vivent avec le VIH. Pour soutenir la recherche contre le sida, vous pouvez faire un don en vous rendant sur sidaction.org, en appelant le 110 ou en envoyant don, D-O-N, par SMS au 92-110.
Signe de l'infiltration de l'idéologie islamiste et parfois chez les plus jeunes, on l'a appris hier soir, un adolescent de 14 ans est soupçonné d'avoir voulu projeter un attentat contre un centre commercial à Lille.
Il a été interpellé mercredi puis présenté à un juge d'instruction et mis en examen du chef d'association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes, mais aussi pour provocation directe à un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication.
Et on est avec Célia Barotte du service police-justice de CNews. Bonjour Célia. Que reproche-t-on à ce jeune adolescent?
Eh bien, selon le parquet national antiterroriste, on reproche à ce jeune garçon de 14 ans d'avoir partagé de la propagande de l'État islamique via des vidéos qu'il consultait et qu'il rediffusait. Il partageait manifestement l'idéologie de l'organisation terroriste. Il aurait envisagé de commettre un attentat en particulier contre un centre commercial. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'il n'était pas sur le point de passer à l'acte. Il ne s'agit donc pas là d'un attentat déjoué. Selon nos informations, il avait également un temps pensé à passer à l'acte dans son collège, mais ce n'était plus du tout d'actualité. C'était vraiment le centre commercial qui était au cœur de ses préoccupations.
Et quelles sont les suites de cette affaire après sa mise en examen ?
Eh bien, conformément aux réquisitions du parquet national antiterroriste, ce jeune garçon a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'est pas en détention provisoire. Selon nos informations, il va falloir que les enquêteurs établissent si derrière ce qu'il disait, il avait réellement la volonté de passer à l'acte. L'information judiciaire qui a été ouverte va permettre de vérifier l'état d'aboutissement de son projet, de ses projets d'action violente. En tout cas, cette affaire a fait réagir le ministre de l'Intérieur. Sur X, Gérald Darmanin a salué les services de renseignement qui ont permis l'interpellation de cet adolescent potentiellement très dangereux.
Célia Barotte du service police-justice de CNews. En politique à présent, les LR lancent à leur tour leur campagne européenne à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. François-Xavier Bellamy est à nouveau la tête de liste pour ce scrutin. En 2019, le parti avait fait un score historiquement bas. Près de 8,5%.
Oui, mais les intentions de vote cette année ne sont pas bien meilleures. François-Xavier Bellamy sera accompagné des deux dernières recrues LR, l'agricultrice du Tarn Céline Imar et le général Christophe Gomard. Les enjeux de ce meeting avec notre journaliste politique Johan Usaï.
François-Xavier Bellamy prononcera aujourd'hui son premier discours de candidat. La tête de liste des Républicains sera cet après-midi au Doc de Paris devant plus de 3000 militants pour tenter de dynamiser cette campagne pour les élections européennes. Le rôle de François-Xavier Bellamy sera de redonner confiance aux électeurs de droite en tentant de leur démontrer que le vote pour les Républicains est un vote utile. Un défi pas simple pour un parti pris en étau entre le Rassemblement national et le camp présidentiel et qui doit donc à la fois jouer la carte pro-européenne pour séduire les électeurs de droite partis chez Emmanuel Macron, tout en essayant de séduire les électeurs eurosceptiques qui, eux, ont rejoint Jordan Bardella et Marine Le Pen. Les deux adversaires de François-Xavier Bellamy sont donc tout désignés. Il s'agit d'Emmanuel Macron, d'abord accusé notamment d'instrumentaliser la guerre en Ukraine à des fins électoralistes, et puis Jordan Bardella, accusé, lui, d'être candidat partout est présent nulle part. L'objectif des Républicains est bien sûr de franchir le 9 juin prochain le seuil fatidique des 5% pour espérer obtenir des élus au Parlement européen et d'arriver devant la liste Reconquête conduite par Marion Maréchal pour montrer que la droite de gouvernement existe toujours et qu'il faudra compter avec elle en 2027.
Guillaume Bigot, ils sont sur une ligne de crête quasi impossible pour obtenir des voix. Il faut convaincre à la fois les pro-européens de droite et les anti-européens de droite.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un parti un peu en sursis, puisque une partie du parti se tourne un peu comme le tournesol vers le soleil du côté de son potentiel avenir, c'est-à-dire une alliance avec des formations comme le RN et Reconquête. Et de l'autre côté, il y a toujours une tentation aussi, pourquoi pas, on voit avec des individus pour l'instant, hein, de Bruno Le Maire à Rachida Dati, a fait une alliance avec le gouvernement. Ça, sous un peu sur le conseil de Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez, ce sera soit le sursis, soit le rebond. Et ce qui peut-être ajoute à la confusion, c'est que la personne qui incarne la tête de liste, qui est quelqu'un de tout à fait remarquable, François-Xavier Bellamy, comme diraient les économistes, c'est un peu un substitut étroit à Jordan Bardella, à Marion Maréchal, puisque ces trois personnalités ont comme caractéristique notamment de mettre en avant la question de l'identité, de la défense, de la civilisation, etc. Même si, à mon sens, on est davantage face à un effondrement, un auto-effondrement de la civilisation occidentale qu'une concurrence pour la civilisation extérieure.
À Marseille, il n'y a pas que le trafic de drogue et les règlements de compte qui pourrissent la vie des habitants à l'est de la ville, dans un quartier habituellement paisible. Il y a aussi les cambriolages, parfois très violents, en présence des propriétaires. Notre reportage à suivre dans un instant, juste après la pause. Vous restez avec nous dans la matinale week-end sur CNews. Là, 7h29 de retour dans la matinale week-end avec tout mon plateau pour commenter l'actualité. Michel Taube, Guillaume Bigot, Marine Sabourin bien sûr pour les JT, Célia Barotte du service police-justice et Harold Iman pour les questions internationales. Beaucoup de questions à évoquer justement ce matin avec vous. Mais on va commencer par Marseille. C'est à la une de notre journal. Il n'y a pas que le trafic de drogue et les règlements de compte qui pourrissent la vie des habitants. À l'est de la ville, dans un quartier habituellement paisible, les riverains se sentent délaissés face à l'explosion des cambriolages parfois très violents en présence des propriétaires. L'inquiétude est telle qu'ils s'organisent eux-mêmes pour leur sécurité. Est-ce que les moyens déployés face aux narcotrafiquants dans les cités se font au détriment du reste de la ville ? C'est une question qu'on posera sur ce plateau. À la une également, la campagne du SIDAction ce week-end. CNews et le groupe Canal Plus s'engagent pour soutenir la lutte contre le virus. Près de 200 000 personnes vivent avec le VIH en France. Vous allez le voir, le sujet reste encore tabou, surtout auprès des jeunes. Et on en parle dans cette édition. On prendra la direction du Royaume-Uni. La princesse de Galles a annoncé hier soir être atteinte d'un cancer. Kate Middleton a débuté un traitement de chimiothérapie préventive. Quelles conséquences au sein de la famille royale? On en parle avec notre spécialiste de la royauté, Bertrand Descartes, dans quelques minutes. Et on commence tout d'abord avec Marseille. L'inquiétude des habitants d'un quartier est de la ville. Depuis 9 mois, ce secteur est le théâtre de nombreux cambriolages, parfois très violents.
Oui, malgré des rencontres avec les autorités, rien ne bouge. Les habitants sont obligés de se relayer pour assurer la sécurité de leur maison. Reportage sur place de leur para.
Fin février, Olivier et sa femme rentrent de soirée, découvrent la maison ouverte, la moto au sol, le réservoir défoncé, la télé cassée, les placards sans dessus dessous, un trou dans le
mur. Comme ça. Je suppose qu'ils cherchaient de l'argent. Enfin, étant donné qu'ils n'ont rien trouvé, ils ont cassé.
Depuis, le couple a peur. Les assaillants, ici sur les caméras de vidéosurveillance, agissent la nuit en groupe armé. Ils s'introduisent dans les maisons, comme chez cet habitant qui préfère rester anonyme. Inquiet, il s'est équipé de caméras et d'alarmes.
C'est bien de s'organiser, mais il y a une grosse psychose, notamment ma femme. Tout le monde a peur. Voilà, on se dit, tiens, est-ce qu'ils ne vont pas rentrer? Ils n'ont pas peur de rentrer, de venir cambrioler quand vous êtes là. Donc on était dans un quartier paisible qui le devient de moins en moins, quoi.
Entre voisins, ils surveillent, alertent en cas de véhicule suspect. Certains se sont armés. Ils ont été reçus par les autorités, entendus, mais la réponse donnée est insupportable.
Les pouvoirs publics prennent en compte notre problème parce qu'ils craignent qu'il arrive malheur. Mais le malheur, les gens l'ont déjà vécu. Ils le vivent. Ils y sont donc en réalité la préoccupation de l'État, c'est de protéger nos assaillants. C'est pas de protéger ceux qui les nourrissent, ceux qui payent des impôts.
Organisées, ces victimes sont en train de recenser le nombre de personnes touchées par ces vols avec violence. À ce jour, ils en comptent une vingtaine dans un secteur limité, à quelques impasses au pied des collines.
Michel Taube, c'est un phénomène dont on parle de plus en plus souvent. Auparavant, pour cambrioler, on attendait l'absence des propriétaires. Aujourd'hui, de plus en plus, on fait cela de manière ultra-violente, en présence même de ces propriétaires. C'est ce qu'on appelle, et on l'a vu à travers aussi des célébrités qui ont vécu ça, le homejacking.
Absolument, la violence augmente partout et personne n'y échappe. Et donc, je trouve que dans ce reportage, ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit qu'il y a une prise de conscience collective et que les habitants ne veulent pas se contenter d'attendre que la police intervienne.
Mais ça passe très, très tard. Et c'est plutôt inquiétant. Ça veut dire que des habitants s'organisent eux-mêmes pour la sécurité
alors,
de leur quartier.
Alors oui et non, parce qu'il ne s'agit pas de se faire justice, mais il s'agit selon moi de faire de la sécurité préventive. On ne peut pas reprocher à des personnes d'être vigilantes et de s'organiser collectivement pour juste faire attention et surveiller un quartier qui est en danger de cambriolage. Donc je pense qu'il y a une chaîne, il y a un continuum de sécurité qui fonctionne de plus en plus parce que face à une violence endémique qui touche encore une fois tous les Français, les forces de police font ce qu'elles peuvent, police municipale, police nationale, gendarmerie, mais s'il faut plus de moyens et que tout le monde soit vigilant collectivement, sans encore une fois se faire justice, moi je pense que c'est une très bonne chose. Moi j'appelle ça de la sécurité préventive. Ce n'est pas se faire justice soi-même, c'est juste participer à l'effort de prévention pour protéger les biens et les personnes.
On va voir ce qu'en pense Bruno Bartocchetti qui est avec nous. Bonjour Bruno Bartocchetti, vous êtes secrétaire national unité SGP pour la zone sud. J'allais vous interroger sur un autre sujet marseillais, mais puisque vous êtes là, je vais quand même vous poser cette petite question. Est-ce que, et c'est peut-être pas le cas, mais vous allez me le dire, est-ce qu'à Marseille, les moyens mis sur les quartiers difficiles, sur les cités, contre le narcotrafic, fait que quelque part on délaisse un peu d'autres formes de délinquance dans la ville aujourd'hui?
Oui, bonjour. Alors non, je ne peux pas, comment dirais-je, employer le mot délaissé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on nous demande, nous, policiers, de prioriser toutes les missions. Hein, on doit être présent sur les violences sur personnes, sur les cambriolages, sur les trafics de stupéfiants, et c'est vrai qu'on ne peut pas se démultiplier. En plus, si je regarde Marseille, c'est très très étendu, c'est 2,5 fois Paris en matière de superficie, et donc c'est très très compliqué pour nous de pouvoir être dans un rôle préventif, comme je viens de l'entendre, présent dans tous les quartiers à tout moment.
Oui, oui, et on salue votre action, on sait bien à quel point c'est difficile. Néanmoins, est-ce que ça vous inquiète par contre de savoir que des citoyens s'organisent eux-mêmes pour assurer la sécurité dans ces quartiers? On sait bien que c'est l'État et donc la police qui a le monopole de la violence physique légitime.
Bah, ce qui nous inquiète surtout, c'est que les situations se retournent et physiquement et juridiquement contre les victimes, malheureusement. C'est ça le sujet qu'on peut déplorer parfois. C'est que lorsqu'on se défend, ou lorsqu'on, en tout cas en qualité de citoyen, lorsqu'on prévient ces actes de violence ou de cambriolage, eh bien malheureusement, on peut ne pas contrôler son action et la situation peut se retourner contre soi. C'est ce qui peut nous inquiéter.
Bon, on va venir sur le fond du problème que je voulais aborder avec vous et je vous remercie d'être là encore une fois ce matin. Cette situation aberrante dans certaines cités, le trafic de drogue a pris une telle ampleur qu'il faut montrer patte blanche pour pouvoir y pénétrer. Même les marins-pompiers, qui sont des militaires respectés, évidemment, sont fouillés par les guetteurs pour pouvoir accéder à ces quartiers. C'est ce que révèle une enquête de nos confrères de la Provence, publiée cette semaine, une enquête signée Laetitia Liénard et Marion Bios-Duplan. Avec ces témoignages de marins-pompiers, Marine.
On t'arrête à l'entrée et si tu refuses, les guetteurs ne te laissent pas passer, explique l'un d'eux. Ces secouristes n'ont parfois même pas la possibilité d'intervenir. On leur demande d'ouvrir les portes arrière de leur véhicule pour s'assurer qu'il n'y a ni policiers ni caméras à l'intérieur. Je me sentais impuissant, dit ce militaire. J'avais tout simplement envie de faire mon travail et je me retrouve face à des hommes qui se sont autoproclamés chefs de leur quartier.
Cela veut dire aujourd'hui, Bruno Bartocchetti, que lorsque l'on habite ces cités, que l'on subit au quotidien l'insécurité au pied de son immeuble, eh bien, on n'a pas les mêmes chances qu'ailleurs d'être sauvé si notre vie ou notre santé est en jeu.
Et malheureusement, ça peut être ce constat, et je ne veux pas ramener le sujet à ma personne, mais j'ai été marin-pompier dans les années 80. Déjà, on était reçus avec divers projectiles quand on pénétrait dans ces quartiers. Donc aujourd'hui, ça n'est pas pour nous être hostiles, ils le sont, hein. De toute façon, ils le sont à l'endroit des facteurs, des gardiens d'immeubles, des employés de EDF et des marins-pompiers. Et là, ça devient très très inquiétant aussi pour les marins-pompiers, pardon, parce que comme vous le soulignez, lorsqu'on intervient, c'est pour secourir. Et tout est contrôlé, même la durée de notre intervention, l'intervention des marins-pompiers, pardon, parce que justement, s'ils restent trop longtemps sur un lieu pour aider une victime, eh bien, ils peuvent gêner leur vente et leur trafic. Donc, c'est vrai que c'est insupportable. Et encore, je dis bien, retenons le nombre d'agressions aussi qu'on peut enregistrer à l'endroit des marins-pompiers. Vous intervenez, les marins-pompiers interviennent à peu près 350 fois par jour, hein, à Marseille. Et c'est vrai qu'on peut déplorer beaucoup d'agressions à leur endroit et ce filtrage. Je vais employer ce terme-là dans certaines cités pour pas qu'ils gênent ces trafics de stupéfiants. C'est vrai que c'est insupportable. C'est pour cette raison que parfois, je dis bien pas toujours, les marins-pompiers ne nous appellent pas systématiquement, mais parfois, dès qu'ils nous appellent, bien sûr, on répond présent pour les aider à intervenir, mais c'est quand même pas la solution pour travailler dans ces quartiers lorsque les victimes ont besoin de nous.
Et pardonnez-moi, mais ça fait combien de temps que ce phénomène, vous l'observez, et ça concerne quel quartier, quelle cité de Marseille ?
Ça concerne de nombreuses cités, les plus sensibles, bien souvent. Vous savez, on a beaucoup parlé de la Castellane. Ça a été le cas à la Castellane. Ça a été le cas à la Paternelle ou d'autres cités. Mais c'est allé crescendo. Depuis, on va dire, vous savez, ce phénomène de trafic de stupéfiants a pris beaucoup d'ampleur dans toutes les cités de Marseille, finalement. Il n'y a pas que la zone nord. Mais on va dire que ces 10, 15 dernières années, allez, ces 10 dernières années, c'est allé crescendo en matière de circulation d'armes à feu, en matière de vente de produits de stupéfiants. Et de contrôle, bien sûr, des marins-pompiers, mais de toute façon, de tout le service public en général.
L'opération PlaceNet XXL qui a été menée justement dans ces quartiers, est-ce que ça va changer quelque chose justement pour les marins-pompiers et leur accès à ces quartiers? Pas vraiment.
Non, on ne va pas faire un lien direct. Vous savez, ces opérations, elles ont le mérite d'exister, bien sûr, et c'est pas ce que vous faites sur le plateau, mais on peut pas reprocher ce genre d'opérations qui vont se multiplier. Mais c'est vrai qu'il faut aller beaucoup plus loin pour pouvoir permettre justement à tout le service public de pénétrer dans ces quartiers. Donc ça va aller sur beaucoup de thèmes, beaucoup de travail, et ça ne doit pas se limiter à ces opérations. Et là, en début de sujet, vous me demandiez est-ce qu'on était mobilisé essentiellement sur ces trafics de stupéfiants. stupéfiants au détriment des cambriolages. Il est vrai que quand on mobilise 700 policiers pour mener des opérations, ça peut être au détriment d'autres missions, parce que malheureusement, on ne peut pas être présent partout. Et notre grande inquiétude, c'est les Jeux Olympiques, où on doit répondre, bien sûr, à cet événement important en France. Mais on peut passer un été assez difficile, justement, par manque d'effectifs, par endroit.
Merci infiniment Bruno Bartocchetti d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et sur mon autre question qui n'était pas prévue sur les cambriolages dans certains quartiers est de Marseille. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. On va peut-être commenter ça quelques instants avec oui. mes invités, Guillaume Bigot. C'est quand même aberrant la situation de ces marins-pompiers qui ne peuvent pas librement accéder à ces cités quand il s'agit de sauver des vies. C'est la santé des personnes qui sont sur place qui est en jeu. Ça veut dire que des habitants, ce que je disais au début, n'ont pas les mêmes chances, s'ils ont leur vie en jeu, de survie quand il leur arrive quelque chose dans une tour ou dans une barre HLM.
Vous ne croyez pas si bien dire, il y a peu de temps, dans une des cités de Marseille, il y a quelqu'un qui avait besoin d'un suivi infirmier quotidien. Et les guetteurs, enfin les gens qui font le contrôle, ont décidé que plus personne ne rentrait, donc y compris son infirmier. Donc vous voyez, c'est très exactement ce que vous dites, hein, sans parler bien sûr l'intervention des médecins, l'intervention des pompiers, etc. Deuxième chose, il y a un phénomène, évidemment ce phénomène-là inquiétant, on sait qu'une la majeure partie des habitants de ces quartiers sont en quelque sorte prises en otage, sont les premières victimes des dégradations, de la tension, parfois prennent des balles perdues, etc. Mais le plus inquiétant, j'allais dire, n'est pas dans l'exercice d'une sorte de coercition et un peu de terreur sur le quartier. Le plus inquiétant n'est pas là, parce que le jour où il y aura vraiment une reprise de contrôle de ces territoires, pas les opérations XXL, là, mais une vraie reprise de contrôle de ces territoires, la population harcelée elle-même basculera du bon côté. Non, le plus inquiétant, c'est que de temps en temps, eh bien, ils ont un comportement quand même qui tend à se substituer complètement à l'État. C'est-à-dire qu'ils font les courses, ils ramènent les courses des vieilles dames, ils se font bien voir. Souvenez-vous, ils avaient organisé des jeux, ils peuvent aider les enfants. Ils ont vraiment cette... Ça, c'est très dangereux, parce que comme dit Mao Tse-tung, ils sont comme des poissons dans l'eau au sujet de la guerre.
C'est un droit alternatif, une autorité alternative qui s'est développée dans ces quartiers, voilà. Avec sa légitimité.
Et on sait qu'il y a de ruissellement économique, parce qu'ils font vivre aussi plein de gens dans ces quartiers, des familles, etc. Et là, c'est beaucoup plus dur, parce que là, c'est comme le béton, ça durcit, et là, c'est très dangereux.
Michel Taub.
Je suis tout à fait d'accord avec Guillaume, mais je dirais même que c'est des sociétés sans État qui se mettent en place. C'est une société contre l'État, et qui sont régies, effectivement, par ces malfrats, par ces guetteurs, par, évidemment, leurs commanditaires. Et c'est des sociétés presque parallèles qui se mettent en place. Également, beaucoup, il y a de l'entraide, mais il y a aussi de la terreur.
Les deux
s'entremêlent, évidemment. Et après, ça nous donne, évidemment, des territoires perdus de la République dans lesquels il est extrêmement difficile de reprendre la main, de reprendre le pouvoir. Il faut que la police de proximité, il faut que les services publics, il faut évidemment que les magistrats, que la justice, tout le monde soit extrêmement présent. Il ne faut pas uniquement des opérations Place Net XXL, c'est une reprise en main de la société XXL qu'il faut mettre en place, et ça ne demande pas des interventions policières, ça va bien au-delà, bien entendu.
Et la conséquence, cette hausse inquiétante des assassinats, tentatives d'assassinat et règlement de compte entre délinquants en 2023, plus 38%. Et parmi les villes les plus touchées, évidemment, il n'y a pas que Marseille. Il y a aussi des villes de taille moyenne, Nantes, Amiens, Dijon ou encore Valence.
Ces communes sont désormais touchées, elles aussi, par le phénomène de marseillisation, comme l'expliquent les syndicats de police. Dans la cité phocéenne, gangrénée par les trafics de drogue, 49 narcomicides ont été comptabilisés par le procureur. Rien que pour l'année 2023, les détails de notre journaliste police-justice, Sandra Buisson.
418 victimes en 2023, le nombre de personnes blessées ou mortes dans des homicides ou tentatives d'homicide entre délinquants et dans des règlements de compte a bondi de 38% en France par rapport à 2022, année qui avait déjà vu ce chiffre augmenter de 10% par rapport à 2021 selon nos informations. Cette violence criminelle exacerbée s'étend jusque dans les villes moyennes, Dijon encore la semaine dernière, Avignon, Nîmes, et elle résulte notamment de la démocratisation de l'usage des armes de guerre. Les forces de l'ordre en ont saisi près de 300 en 2023. Autre évolution notable, les homicides ou tentatives d'homicide avec armes ne sont plus uniquement l'apanage de la grande criminalité organisée. Ils sont aussi le fait de délinquants de moindre envergure qui se disputent la propriété de multiples points de vente. Ces conflits s'inscrivent parfois uniquement au niveau local et ne sont pas toujours commandités par ces acteurs de la grande criminalité criminalité organisée. L'objectif n'est plus seulement d'éliminer des cibles précises. Les tirs visent parfois à faire des coups de force, à terroriser les adversaires en rafalant à l'aveugle un point de deal, quitte à toucher des victimes n'ayant rien à voir avec le trafic de drogue.
La campagne du SIDAction 2024 qui est en cours ce week-end. Cette année encore, le groupe Canal+ s'engage aux côtés du SIDAction pour soutenir la lutte contre le virus responsable du SIDA. En France, on a près de 200 000 personnes qui vivent quotidiennement avec le VIH.
Oui, le sujet reste encore tabou, surtout auprès des jeunes. Et pour y faire face, les autorités misent sur la prévention. Retour sur les chiffres de ce virus avec Chloé Tarka.
40 ans que le sida continue de faire de nombreuses victimes à travers le monde. En 2021, sur 39 millions de porteurs du VIH, 190 000 vivaient en France. Avec les 6,5 millions de tests de dépistage réalisés cette même année, ces chiffres restent sous-estimés.
On estime que 24 000 personnes vivent avec le VIH en France sans le savoir. Et elle est là aujourd'hui, la dynamique de l'épidémie. Les gens qui transmettent aujourd'hui le VIH en France sont des gens qui ne savent pas qu'ils sont porteuses ou porteurs du VIH.
5 000 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2022, dont 14% sont des jeunes de moins de 25 ans. Une problématique médicale mais aussi sociale pour cette maladie encore considérée comme tabou.
Plus de 40% des jeunes de 15 à 24 ans déclarent que s'ils avaient le VIH, ils auraient honte d'en parler à leur entourage. Vous voyez, on est encore sur du dur. Hein. Alors même que aujourd'hui, si vous vivez avec le VIH et vous prenez un traitement, vous ne transmettez pas le VIH.
Au total, 85,6 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. Outre le sida, une augmentation inquiétante des infections sexuellement transmissibles a été observée en Europe. Santé publique France recommande à toutes les personnes âgées de 15 à 70 ans de faire un test de dépistage au moins une fois dans leur vie.
Et pour soutenir la recherche contre le sida, il est possible de faire un don en se rendant sur sidaction.org, en appelant le 110 ou en envoyant don par SMS au 92 110.
À vos dons. On va passer maintenant à cette attaque glaçante, évidemment, dans la banlieue de Moscou. Hier soir, plusieurs individus armés qui sont entrés dans une salle de concert bondée où devait se produire un groupe de rock. Le bilan provisoire de cette attaque terrible est de plus de 60 morts et 115 blessés. Certains témoins ont filmé ces scènes d'horreur. Regardez. Des images absolument terribles qui nous rappellent évidemment ce qui s'est passé en France au Bataclan en novembre 2015. On va en parler avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Harold, le terrorisme islamiste qui semble avoir refait son apparition en Russie à un moment particulier pour le pays, puisque Vladimir Poutine poursuit une invasion de l'Ukraine. Est-ce que ce timing est anodin?
Tout à fait, ça ouvre un second front dont on n'avait aucune envie. Au Kremlin, évidemment. Alors la question majeure en Russie, sans doute, et certainement dans le monde entier, c'est savait-on que cette attaque était imminente? L'ambassade des États-Unis a mis en garde ses ressortissants. Les personnels de sécurité américains nous l'ont rappelé par tweet il y a quelques heures. Nous avions mis en garde nos ressortissants contre des risques terribles. Et donc... il y avait déjà des signes. Il y a trois jours, Vladimir Poutine disait que ce genre d'avertissement américain était une espèce de provocation. Donc, de toute évidence, l'appareil russe n'était pas préparé, l'appareil de sécurité. Et les forces de sécurité russes, le FSB, le GRU, tout ça, ont été dispersées et poursuivent des peccadilles, comme vient de nous le dire Oleg Koptsev, spécialiste géopolitique que vous avez interviewé. Et donc, cela montre que faire face à deux fronts est tout à fait difficile du point de vue de la sécurité intérieure. Et c'est peut-être un peu trop dans l'immédiat pour tous les services russes, qui sont quand même pléthoriques. Et cela montre que l'État islamique existe encore, et particulièrement au sein de la Russie, et recommence des attentats d'un style super mortifère qu'il a déjà commis sur le territoire.
Et on y reviendra en longueur dans notre journal de 8 heures. On va prendre à présent la direction du Royaume-Uni. Après des semaines de rumeurs, Kate Middleton a enfin donné des nouvelles sur son état de santé. Elles ne sont pas bonnes. Dans une vidéo, la princesse de Galles explique être atteinte d'un cancer.
Oui, elle a d'ailleurs commencé un traitement de chimiothérapie préventive. Kate Middleton demande à ce que sa vie privée soit respectée. On l'écoute.
On pensait que mon état n'était pas cancéreux. L'opération a réussi. Cependant, les tests effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j'en suis maintenant au premier stade de ce traitement.
Oui. Et nous sommes avec notre spécialiste de la famille royale britannique, Bertrand Dekkers. Merci d'être avec nous ce matin. Vous venez habituellement le dimanche, on vous a rappelé là ce matin en urgence face à cette situation. Est-ce que évidemment, on imagine que cette annonce ébranle la Grande-Bretagne.
Absolument, la Grande-Bretagne, on dit que hier, dans les pubs, il n'y avait aucun bruit, nous dit-on. Tout le monde regardait les chaînes d'infos en continu pour tenter d'avoir un peu des nouvelles. Je rappelle quand même que pour l'ensemble des Britanniques, Kate Middleton, c'est presque leur cousine. Elle fait partie de leur famille tous les jours. C'est
le membre préféré de la famille royale.
Absolument, voilà. Elle culmine en tête des sondages depuis la mort d'Elisabeth II, qui elle était vraiment hors concours. Kate Middleton, elle était numéro un. Et surtout, les Anglais la connaissent très très bien. Ils suivent Kate Middleton depuis qu'elle est arrivée dans le sillage du prince William, on le rappelle, c'était en 2002.
Quels sont les éléments dont on dispose vraiment sur sa situation ?
Aujourd'hui, vraiment, si on fait un point, c'est que, en effet, donc, ce serait donc le début d'un cancer qui est en train d'être traité. Il aurait appris cela vraiment le 27 février dernier. Il y a eu un étonnement. Vous savez, on pensait que le prince William serait, on en a parlé, à une messe de célébration pour son parrain, le roi Constantin. Il n'y était pas lors de cette messe hommage. On s'est dit, mais c'est bizarre, alors que son nom avait pourtant été annoncé. Il semblerait que ce soit parce que c'est ce jour-là, justement, qu'ils ont appris qu'il y avait la présence de cellules cancéreuses. Maintenant, ne nous leurrons pas, c'est inquiétant. Je pense que si le palais avait pu ne pas communiquer, il ne l'aurait pas fait. Alors, OK, on sait que le dossier médical à la London Clinic, vous savez, a failli être hacké. Mmh. On sait qu'il y a trois personnes qui ont tenté de l'ouvrir. Est-ce qu'il y a quand même des informations qui ont réussi à filtrer et que Kensington a décidé de communiquer pour contrer peut-être des informations qui auraient pu l'être? Surtout, on se dit aussi, ce sont des premières voix qui s'élèvent. On rappelle qu'elle a 42 ans seulement, et que je ne suis pas médecin, mais qu'il y a quand même des voix qui nous disent qu'un cancer, plus on est jeune et plus quand même les choses sont un peu, peuvent être graves.
Très rapidement, que va-t-il se passer dans les jours à venir ?
Dans les jours à venir, je n'ai pas de boule de cristal, mais il semblerait que là, le palais ne va plus communiquer. On nous dit clairement, dans la prise de parole qu'elle a fait, s'il vous plaît, laissez-moi du temps, je souhaite vivre.
On rappelle qu'elle a des enfants quand même.
Elle a trois enfants.
Et qu'elle demande un droit à la vie privée, ne serait-ce que pour ses enfants qui doivent être terriblement inquiets.
Absolument, les mères de famille aussi, vous avez raison. C'est exactement le même cas, dans le fond, c'est stupéfiant, que Charles III. Il a été opéré pour quelque chose de relativement anodin, une intervention à la prostate. On a découvert des cellules cancéreuses. C'est exactement ce qui se passe, semble-t-il, avec Kate Middleton. On rappelle que le roi, il est le chef de cette entreprise Windsor et que Kate Middleton était un petit peu, en quelque sorte, la suppléante parce que la vraie héritière d'Elisabeth II, c'était elle plus que William.
Merci Bertrand Dekkers. On finit avec le sport.
Que vous soyez le roi du design ou la reine des animaux, retrouvez votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Ce programme vous est proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Et Marine, ce soir, la France affronte l'Allemagne.
Il y a un peu moins de 3 mois de l'Euro 2024. L'équipe de France jouera pour la première fois depuis près de 7 ans sans Antoine Griezmann. La France s'offre un test grandeur nature en accueillant ce soir en amical à Lyon l'Allemagne, futur pays hôte. Les Allemands avaient battu la France le 12 septembre dernier à Dortmund. Le seul revers des troupes de Didier Deschamps depuis la finale du Mondial 2022. Il y aura donc un petit air de revanche pour les tricolores ce soir.
Ce programme vous a été proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Que vous soyez la reine de la déco ou le roi du zen, c'était votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
À la une, un commando terroriste qui prend d'assaut une salle de concert, au moins 60 morts et plus de 100 blessés. Ça s'est passé à Moscou, dans la banlieue de Moscou, hier soir en Russie. Et on y revient longuement dans notre journal de 8h. Restez avec nous dans la matinale week-end.
La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
Retrouvez la météo
avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire aujourd'hui? On voit ça tout de suite avec Karine Durand et la météo de votre samedi 23 mars. Karine, il faut s'attendre malheureusement tout le week-end à une baisse des températures.
Oui, c'est un changement de temps radical qui se met en place. Ouais, cette animation des masses d'air qui démarre vendredi jusqu'à mardi. Et on voit bien l'évolution avec cet air matérialisé en bleu qui descend progressivement sur l'ensemble du pays au cours du week-end avec un flux de nord-ouest et de l'air bien plus frais qui arrive du nord jusqu'au sud, mais spécialement au nord. Alors côté ciel, eh bien c'est le retour de la pluie hein, avec des averses fréquentes ce matin sur toute la moitié nord, sur l'est. On a même des chutes de neige entre 6 et 800 mètres sur les Vosges et le Jura, à partir de 1000 mètres pour les Alpes, des pluies copieuses sur les Pyrénées et du vent assez fort en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, nous allons assister à un vrai ciel de mars avec des giboulées, parfois violentes, sur la moitié nord avec du tonnerre, de la grêle possible, du vent fort d'ouest sur la moitié nord, 70 à 80 km à l'heure, du vent fort également en Méditerranée qui reste pour le moment au sec. Les températures sont en chute libre ce matin, spécialement au nord, à peine 6 degrés en région parisienne. Seulement 4 pour Lille. Au cours de l'après-midi, les valeurs repassent un peu en dessous des moyennes de saison. Encore une fois, sur la moitié nord, on perd 7 à 10 degrés hein, par rapport à hier. 11 degrés seulement à Paris, 16 du côté de Biarritz et encore une vingtaine de degrés pour le sud-est. Profitez-en, ça ne va pas durer.
C'était la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
Bon réveil, bienvenue dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Malgré une actualité très lourde aujourd'hui, on essaye de garder une certaine forme de convivialité sur ce plateau. Elle est assurée par Éric Revel qui nous a rejoint.
C'est gentil. Bonjour, bonjour à tous.
Journaliste pour commenter toute cette actualité. Également Guillaume Bigot, éditorialiste qui nous accompagne. L'excellente Marine Sabourin, cela va sans dire. L'excellente Célia Barotte qu'on n'a pas forcément toujours le week-end sur le plateau. On a la bonjour chance de vous avoir ce matin. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Et bien sûr Harold Iman pour nous éclairer sur toute l'actualité internationale. Et il y a de quoi dire ce matin. Tout d'abord l'horreur qui a frappé la Russie hier soir dans la banlieue de Moscou. Une attaque terroriste a fait au moins 60 morts et plus de 115 blessés selon un dernier bilan. Les faits se sont déroulés vers 20h15 dans une salle de concert où devait se produire un groupe de rock. C'est un commando armé qui a fait irruption parmi les spectateurs.
L'État islamique a revendiqué cet attentat et précise que son commando a regagné la base en toute sécurité. Vladimir Poutine, de son côté, souhaite un prompt rétablissement aux victimes mais ne s'est pas encore exprimé publiquement. Retour sur cette attaque glaçante avec Juliette Sadat.
Sur ces images, les spectateurs venus assister au concert s'installent à leur place. Un cri retentit. S'ensuit plusieurs longues minutes de tirs nourris dans la salle. La scène s'est déroulée dans une salle de concert de la proche banlieue de Moscou aux alentours de 20h ce vendredi. À l'extérieur, les proches de spectateurs se massent devant le bâtiment et assistent impuissants au va-et-vient des secours. Certains n'ont aucune nouvelle de leurs proches.
À 19h59, ma femme m'a envoyé une photo. Je lui ai répondu et elle a lu ce message, mais n'a pas lu le message suivant. Ça s'est produit littéralement en une minute. La police n'a rien pu me dire, ni les médecins. Personne ne sait rien. Évidemment que je suis paniqué. J'ai essayé d'appeler 5 hôpitaux. Toutes les lignes sont occupées. Je ne sais pas quoi faire.
Au cours de l'attaque, un violent incendie s'est déclaré. Les flammes ont dévoré une grande partie du bâtiment tout au long de la nuit. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Le Kremlin dénonce un attentat terroriste sanglant.
On va commenter tout cela avec mes invités sur ce plateau. Mais tout d'abord, nous sommes avec Vyacheslav Aviutsky, spécialiste de la Russie. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous éclairer sur la situation. Tout d'abord, quelque chose que peut-être les Français, nos téléspectateurs qui nous suivent, ne savaient pas forcément, c'est que la Russie est elle aussi ciblée par le terrorisme islamiste au même titre que les pays occidentaux.
Bien entendu, c'est pas le premier attentat, c'est pas non plus le premier attentat qui a été commis à Moscou, mais c'est vrai que c'est un très grand attentat islamiste qui a été commis, disons, depuis 10-15 dernières années. En fait, ils avaient un équivalent de Bataclan au début des années 2000, c'est le fameux attentat de rue Dubrovka, qui s'est déroulé à peu près dans le même contexte. On avait aussi un commando qui a pris en otage une salle entière de plusieurs centaines de spectateurs, aussi à Moscou, et ça rappelle beaucoup, normalement, ce type d'attentat. Après, les attentats terroristes, les attentats islamistes qui ont visé la Russie, bien entendu, il y en a eu beaucoup dans la partie nord du Caucase, qui fait partie administrativement de la Fédération de Russie, donc c'est pas du tout un nouveau phénomène, c'est quelque chose qui s'est poursuivi, continue depuis des années.
Quand on parle de la Russie, bien souvent, on a le sentiment d'un état policier où la moindre manifestation est réprimée. Alors on se demande comment c'est possible qu'un attentat d'une telle ampleur ait pu se produire dans la banlieue de Moscou.
Mais en fait, je crois qu'ici, il faut se focaliser sur le timing. Pourquoi cet attentat a eu lieu après les élections et non pas avant les élections, comme les États-Unis l'ont prédit. En fait, apparemment, on a des informations comme quoi les autorités américaines, en fait, les services spéciaux américains ont été en contact avec leurs homologues russes.
Washington a déclaré officiellement avoir prévenu Moscou, effectivement.
Mais lorsqu'on parle des relations tendues ou voire hostiles liées au contexte ukrainien, bien entendu que la coopération n'est pas entière. Et probablement, en fait, la Russie s'est méfiée de cette information en pensant que les États-Unis voulaient déstabiliser la situation à Moscou, en Russie, juste avant les élections. Mais après les élections, normalement, on voit que globalement, les mesures de sécurité qui étaient très élevées ont été logiquement relâchés parce que le grand événement politique, lorsqu'un cycle politique commence, se termine. Après contrôler la ville de Moscou, qui compte à peu près 14 millions de personnes, et avec la grande agglomération moscovite, si on rajoute toutes les banlieues, on va aller jusqu'à 40 millions, c'est pratiquement impossible. Après, ce qu'on a vu aussi, il y avait une compagnie privée qui s'occupait de la sécurité de ce centre. Et on voit sur les images comment, en fait, on voit des corps des membres de cette compagnie qui gisent à l'entrée du bâtiment. Il semblerait que les terroristes, d'abord, ils ont abattu ces personnes qui n'étaient pas non plus armées. D'accord. Et ensuite, ils ont commencé à attaquer les téléspectateurs qui étaient dans une file d'attente, et puis à l'intérieur de la salle.
Vyacheslav Avyutsky, spécialiste de la Russie, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. On va faire un tour de table avec mes invités. Éric Revel, forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé au Bataclan en novembre 2015 à Paris.
Évidemment, d'abord, il faut quand même dire notre compassion au peuple russe, notre tristesse. Mais vous avez raison, ça nous replonge dans les images terrifiantes, traumatisantes du Bataclan 2015. Ça, c'est une évidence. Il y a plein de points communs. Il s'agit d'une salle de spectacle. Il s'agit d'un groupe de rock russe, Biknik, je crois, qui était un groupe qui était un peu sur le retour, vous voyez. Donc il y a aussi s'opposer à la culture, s'opposer. Donc il y a plein de points communs, évidemment, avec le Bataclan, jusqu'au carnage, jusqu'aux méthodes. Comme le disait l'expert à l'instant, il y a cette revendication de l'État islamique. Les Américains avaient prévenu, par la voix de la porte-parole du Conseil national américain de sécurité, prévenu d'un attentat terroriste possible, alors que les autorités russes aient pris ça ou pas à la légère. Mais en fait, quand vous voyez comment, parce qu'il faut le rappeler, comment la Russie a combattu l'État islamique en Syrie, l'affaire en Ingouchie, en Tchétchénie, je vous rappelle quand même, puisque on parlait de massacre, malheureusement, qu'il y avait eu cette prise d'otage à Beslan, vous vous en souvenez, il y a une vingtaine d'années, qui était une petite ville du Caucase, où il y avait eu une prise d'otage dans une école, où il y avait eu des centaines de morts, et ça, c'était un commando islamiste tchétchène et ingouchi. Donc cette lutte du pouvoir central russe contre l'islamisme, qui est le point commun finalement l'Occident, qu'on soit du côté des démocraties ou des dictatures, c'est un point commun. C'est-à-dire que le véritable fléau aujourd'hui, que ce soit le 11 septembre aux États-Unis, que ce soit le Bataclan pour nous, que ce soit ce qui s'est passé dans cette salle de spectacle Crocus hier à Moscou, ben c'est quoi? C'est le combat contre l'islamisme, contre l'État islamique.
Alors, justement, ça réveille, Guillaume Bigot, un vieux fantôme, j'ai envie de dire, qu'on pensait presque avoir combattu, en tout cas l'organisation qu'on pensait avoir combattu, c'était le groupe État islamique, qui est bel et bien présent, manifestement, en tout cas en Russie, et qui est capable d'organiser une attaque commando.
Vous savez, l'islamisme ou le djihadisme mondial, c'est-à-dire la version armée de l'islamisme, c'est une hydre. Donc ça s'est appelé le GIA, ensuite ça s'est appelé Al-Qaïda, ensuite ça s'est appelé, ACMI ou différents Boko Haram, Daesh, avec différentes filiales. Donc comment ça fonctionne en fait? C'est assez simple. Il y a toujours des zones de combat, disons des zones de fixation, pour appeler des forges qui sont la Bosnie, la Tchétchénie, l'Irak, l'Afghanistan. Des zones où ça se bat. À partir du moment où ça se bat, ça va drainer et attirer des djihadistes des quatre coins du monde qui partagent cette idéologie. Ces gens vont se former, vont éventuellement former des commandos sur place, vont être entraînés, vont être aguerris. Et tels les saumons remontant vers la source, les djihadistes finissent toujours par frapper chez eux. C'est comme ça que ça se passe. Donc on a cette illusion, parce qu'on ne veut pas le voir, mais vous pouvez décapiter à la fois un groupe, vous pouvez éteindre temporairement un conflit, mais un, le conflit va se rallumer ailleurs demain, c'est inéluctable, et ne cesse jamais à bas bruit. Là, on ne parle plus de Daesh, par exemple, en Syrie, mais il y a encore des cellules de Daesh. En Afghanistan, il y a un combat entre l'État islamique au Khorasan, enfin le Daesh-Khorasan, c'est-à-dire l'État islamique de l'Afghanistan contre les talibans. Ils se battent entre eux. Voilà. Mais ça n'a jamais cessé, ni les foyers de guerre, ni les groupes qui peuvent se reconstituer sous d'autres noms d'ailleurs.
On est avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement. Et forcément, une question qu'on a envie de vous poser ce matin, Claude Moniquet, est-ce que ce type d'attaque commando est à nouveau possible en France ?
Ce type d'attaque commando, s'il était possible à Moscou, qui est une des capitales les plus surveillées du monde, est possible partout dans le monde et partout en Europe et évidemment en France. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait alerté déjà il y a presque un an, en mai 2023, en disant qu'après les attentats auxquels on était habitué depuis 2017, les attentats individuels au couteau, etc., on avait la résurgence de la menace de la menace structurelle d'attentats menés en réseau, parfois transnationaux, et malheureusement, ça se confirme.
Est-ce que, une dernière question, nos services de renseignement sont en cheville avec ceux des États-Unis, par exemple, pour identifier d'éventuelles menaces? Je dis ça parce que justement, on parlait de Moscou tout à l'heure, qui a été manifestement prévenu par Washington.
Alors, les échanges entre services de renseignement, les services français en l'occurrence, les Américains, mais aussi les Anglais, tous nos alliés européens, tous les pays arabes avec lesquels, ou du Moyen-Orient avec lesquels nous avons des contacts, le Pakistan pour surveiller l'Afghanistan, etc. Ces contacts sont permanents et en matière de terrorisme, et surtout pour le moment, et surtout à l'arrivée à proximité de deux grands événements, le 80e anniversaire du débarquement ou les Jeux Olympiques, on peut imaginer sans problème que ces contacts sont quotidiens, à la fois à Paris, dans les capitales concernées, et par des échanges via des systèmes qui sont propres au service. Les échanges sur la menace terroriste sont permanents, sont quotidiens et sont extrêmement intenses pour le moment.
Merci infiniment, Claude Moniquet, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Face au terrorisme, l'inquiétude en France pour nos établissements scolaires. On en a parlé cette semaine, on rappelle la frayeur vécue par de nombreux élèves qui ont reçu cette semaine des menaces accompagnées d'une terrible vidéo de décapitation. Selon le gouvernement, 500 établissements scolaires nécessitent un renforcement de leur sécurité. C'est ce qu'a rappelé le gouvernement.
Oui, certains ont vu leur système de sécurité mis à jour, mais pas tous. Des trous dans la raquette ont été identifiés, selon Gabriel Attal. Une nouvelle réunion est organisée le 4 avril prochain. Les explications de Marie-Victoire Dieudonné.
Intrusion, attentat, trafic de drogue et cette semaine des cyberattaques. Ce mercredi, le gouvernement a reconnu des trous dans la raquette en matière de sécurisation des établissements scolaires et entend poursuivre son travail initié au lendemain de l'attentat d'Arras.
500 établissements scolaires nous ont dit avoir des besoins particuliers. 150 ont déjà fait l'objet des travaux nécessaires par rapport à leurs demandes. Il en reste 350. Ce sont les établissements que nous allons prioriser avec les collectivités territoriales.
Les équipements en question, des alarmes anti-intrusion ou du personnel de sécurité aux abords des établissements. Mais pour le collectif des stylos rouges, ces mesures ciblées seront bien impuissantes face à la dégradation générale des infrastructures.
Il y a régulièrement un matériel qui est là, qui est défectueux. Par exemple, une porte qui est censée être aimantée, donc très puissamment fermante, on va dire, ne l'est pas dans les faits, parce que l'aimant voilà, a été endommagé depuis très longtemps. Les caméras de surveillance, qui souvent, curieusement, quand il y a un incident grave, n'ont pas fonctionné. Et puis on se rend compte qu'en fait, elles ne fonctionnaient pas depuis très longtemps.
Une nouvelle réunion aura lieu le 4 avril pour faire le point sur la sécurité des établissements. Un objectif, la sécurité des élèves sur les bancs, mais aussi en ligne. Au programme, un audit des espaces numériques de travail.
Ce terme qui a été employé par Gabriel Attal qui nous inquiète cette semaine, c'est « trou dans la raquette » quand il nous parle de la sécurité des établissements scolaires. On parle de nos enfants, de leur sécurité face à une potentielle menace, qu'elle soit terroriste ou encore qu'elle soit liée au narcotrafic quand c'est autour des établissements, quand ça se passe dans des quartiers difficiles.
Oui, on se souvient il y a quelques mois de cette école maternelle ou cette école élémentaire à côté de laquelle il y avait un trafic de drogue et je crois que le principal avait mis une bâche pour éviter que les gens... Les dealers balancent. Mais au-delà de ça, ce qui est quand même... On bascule dans un autre monde, pardonnez-moi, mais l'école de la République, c'est le... Normalement, même si le niveau a beaucoup baissé, mais c'est quand même un sanctuaire. C'est quand même un monde ouvert.
Ah, là, ça fait longtemps que c'est plus un sanctuaire.
Oui, mais attendez. Non, mais là, je veux dire, c'est même pas au figuré, c'est au propre. On est en train de refermer, en fait, l'école. Parce que si on parle de mesures de protection, de portes qui vont filtrer ce qui rentre, de détecteurs de métaux, pourquoi pas, on n'est plus dans l'école.
On n'a plus le choix.
Et puis autre chose, je ne sais pas où en est l'enquête des 40 établissements qui ont été menacés et si l'enquête progresse sur les auteurs de cette supercherie ou de cette réalité, mais le mal est fait. Parce qu'en réalité, c'est la menace qui est le poison qui s'infuse, la menace pour les enfants traumatisés, la menace pour les professeurs qui ne se sentent plus du tout en sécurité. Donc que ce soit un canular ou que ce soit quelqu'un qui était prêt à passer à l'acte, de toute façon, la menace fait que l'angoisse gagne l'école de la République, pour les profs et pour les élèves.
Guillaume Bigot.
En fait, c'est ça qui est très, très frappant. Et c'est pas ce gouvernement-là, hein, on va pas lui jeter la pierre, c'est sur le long cours. C'est-à-dire que l'analyse n'est pas correcte de ce que veulent les terroristes. Les terroristes veulent, par construction, créer la terreur. Donc si on parle de leurs attentats avant même qu'ils arrivent, soit pour se vanter du fait que les services ont déjoué, d'ailleurs c'est pas les services ne veulent pas du tout, hein. En général quand on en parle, ce sont les politiques qui en parlent, ou pour dire tiens, on a reçu des menaces. Dans ce cas-là, on va dire que comme beaucoup de chefs d'établissement avaient reçu, comme des familles avaient reçu, peut-être c'était difficile pour le gouvernement honnêtement de ne pas en parler. Mais en temps normal, on fait quasiment le travail, le service de presse des terroristes à leur place parce qu'on diffuse la terreur. Tout en ayant, en entretenant la population dans l'illusion que ça ne recommencera pas. Mais attendez, c'est une guerre de 30 ans, sinon de 100 ans. Donc il faut maintenant regarder la réalité en face. Regarder la réalité en face, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut préparer les établissements scolaires et d'autres, les préparer techniquement, mais aussi préparer d'ailleurs avec une formation. Qu'est-ce qu'on fait au cas où ? Ça commence, hein, il y a des salles, alertes, attentats, etc. Mais il faut prendre cette menace au sérieux. Et en parler le moins possible. Et ce qu'on fait, c'est l'inverse. C'est qu'on ne prépare pas et on parle. Et on jette de l'argent, des milliards, pour construire des routes en Hongrie, etc. L'Union européenne, ou maintenant des milliards en Ukraine. C'est bizarre. Sans réparer nos ponts, nos écoles...
Un aspect de cette menace, c'est peut-être l'infiltration des cerveaux de nos jeunes par l'islamisme radical.
Ça, c'est sûr.
C'est terrible. On l'a appris hier soir, un adolescent de 14 ans est soupçonné d'avoir voulu projeter un attentat contre un centre commercial à Lille.
Il a été interpellé mercredi, puis présenté à un juge d'instruction et mis en examen du chef d'association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes, mais aussi pour provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication.
Et nous sommes donc ce matin avec Célia Barotte pour en parler sur ce plateau. Célia, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ?
Eh bien, selon le parquet national antiterroriste, on reproche à ce jeune garçon d'avoir partagé de la propagande de l'État islamique via des vidéos qu'il consultait et qu'il rediffusait sur les réseaux sociaux. Il partageait manifestement l'idéologie de l'organisation terroriste. Il aurait envisagé de commettre un attentat en particulier dans un centre commercial. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'il n'était pas sur le point de passer à l'acte. Il ne s'agit là pas d'un attentat déjoué. Selon nos informations, il avait également un temps pensé à passer à l'acte dans son collège, mais ce n'était plus du tout d'actualité. C'était vraiment le centre commercial qu'il visait et qui était au cœur de ses préoccupations.
Et quelles sont les suites de cette affaire après sa mise en examen ?
Eh bien, conformément aux réquisitions du parquet national antiterroriste, ce jeune garçon a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'est pas en détention provisoire. Selon nos informations, il va falloir que les enquêteurs établissent si derrière ce qu'il disait, il avait réellement la volonté de passer à l'acte. L'information judiciaire qui a été ouverte va permettre de vérifier l'état et de l'aboutissement de son projet, de ses projets d'action violente. En tout cas, cette affaire a fait réagir le ministre de l'Intérieur, puisque sur X, Gérald Darmanin a salué les services de renseignement qui ont permis l'interpellation de cet adolescent potentiellement très dangereux.
La présence précieuse de Célia Barotte sur ce plateau. Merci à vous pour toutes ces informations. C'était il y a presque un an, jour pour jour, le 25 mars 2023, des images d'une rare violence. Les affrontements de Sainte-Soline dans le département des Deux-Sèvres entre militants écologistes radicaux et forces de l'ordre. Un rassemblement contre les projets de méga-bassines. Rappelez-vous, Gérald Darmanin, à l'époque, avait parlé d'éco-terrorisme.
Oui, 47 gendarmes avaient été blessés, 17 parmi les manifestants. Les organisateurs, eux, en revendiquent 200. Un an plus tard, le collectif Bassine Non Merci organise une mobilisation sur plusieurs jours dans le département. Alors, quelles sont les suites judiciaires de ces incidents ? Combien de condamnations et de dossiers en cours ? On fait le point avec Mathilde Ibanez.
Si les interpellations ont été compliquées lors des affrontements à Sainte-Soline entre les manifestants et les gendarmes, les investigations ont mené à une dizaine d'arrestations sur les milliers de participants. La justice a décidé de se montrer ferme face aux opposants aux bassines. Un homme âgé de 27 ans a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Niort pour avoir participé aux affrontements. Trois autres prévenus âgés de 25, 26 et 27 ans ont été condamnés à des peines de 2 à 4 mois de prison avec sursis pour recel de vol ou participation à un groupement en vue de préparer des violences. Le 22 juin dernier, un homme âgé de 42 ans avait été condamné à 10 mois de prison ferme pour avoir jeté des pierres sur les gendarmes. Outre les manifestants, les organisateurs aussi ont été dans le viseur de la justice. Le porte-parole du collectif anti-bassine a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. D'autres membres du collectif Les Soulèvements de la Terre ont été condamnés respectivement à 9 et 6 mois de prison avec sursis. Les organisateurs appellent pourtant à un nouveau rassemblement avant la cérémonie des Jeux Olympiques.
Des cambriolages ultra-violents, ça se passe à Marseille, dans un quartier est. Notre reportage justement auprès de ces habitants qui en ont ras-le-bol, qui se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. On voit ce reportage de Laure Parra juste après la pause. À tout de suite.
Sur les chauves, là.
De retour sur le plateau de la matinale week-end. Une matinale très bavarde pendant les pauses, forcément, avec Éric Revel, journaliste qui m'accompagne. Guillaume Bigot, Marine Sabourin, Célia Barotte. Évidemment, une actualité lourde aujourd'hui. On essaye de garder une certaine forme de convivialité malgré tout. Voici les titres de votre journal de 8h30. À la une, à Marseille, il n'y a pas que le trafic de drogue et les règlements de compte qui pourrissent la vie des habitants. À l'est de la ville, dans un quartier habituellement paisible, les riverains se sentent délaissés face à l'explosion des cambriolages, parfois très violents. En présence des propriétaires, l'inquiétude est telle qu'ils s'organisent eux-mêmes pour leur sécurité. Vous verrez notre reportage sur place. C'est la campagne du SIDAction ce week-end. CNews et le groupe Canal+ s'engagent pour soutenir la lutte contre le virus. Près de 200 000 personnes vivent avec le VIH en France et vous allez le voir. Le sujet reste encore tabou, surtout auprès des jeunes. On en parle dans ce journal. On prendra enfin la direction du Royaume-Uni. La princesse de Galles a annoncé hier soir être atteinte d'un cancer. Kate Middleton a débuté un traitement de chimiothérapie préventif. Quelles sont les conséquences au sein de la famille royale ? On en parle dans ce journal. Tout d'abord, l'inquiétude des habitants dans un quartier est de Marseille. Depuis 9 mois, ce secteur est le théâtre de nombreux cambriolages, parfois très violents, Marine.
Oui, malgré des rencontres avec les autorités, rien ne bouge. Les habitants sont obligés de se relayer pour assurer la sécurité de leur maison, leur témoignage recueilli par leurs parents.
Fin février, Olivier et sa femme rentrent de soirée, découvrent la maison ouverte, la moto au sol, le réservoir défoncé, la télé cassée, les placards sans dessus-dessous, un trou dans le
mur. Comme ça. Je suppose qu'ils cherchaient de l'argent. Enfin, étant donné qu'ils n'ont rien trouvé, ben ils ont cassé.
Depuis, le couple a peur. Les assaillants, ici sur les caméras de vidéosurveillance, agissent la nuit en groupe armé. Ils s'introduisent dans les maisons, comme chez cet habitant qui préfère rester anonyme. Inquiet, il s'est équipé de caméras et d'alarmes.
C'est bien de s'organiser, mais il y a une grosse psychose, notamment ma femme. Tout le monde a peur. Voilà, on se dit, tiens, est-ce qu'ils ne vont pas rentrer ? Ils n'ont pas peur de rentrer, de venir cambrioler quand vous êtes là. Donc on était dans un quartier paisible qui le devient de moins en moins, quoi.
Entre voisins, ils surveillent, alertent en cas de véhicule suspect. Certains se sont armés. Ils ont été reçus par les autorités, entendus, mais la réponse donnée est insupportable.
les pouvoirs publics prennent en compte notre problème parce qu'ils craignent qu'il arrive malheur. Mais le malheur, les gens l'ont déjà vécu. Ils le vivent. Ils y sont. Donc en réalité, la préoccupation de l'État, c'est de protéger nos assaillants. Ce n'est pas de protéger ceux qui les nourrissent, ceux qui payent des impôts.
Organisées, ces victimes sont en train de recenser le nombre de personnes touchées par ces vols avec violence. À ce jour, ils en comptent une vingtaine dans un secteur limité, à quelques impasses au pied des collines.
Et nous sommes en direct avec Victor Gioia. Merci d'être avec nous. C'est vous qu'on entend d'ailleurs dans ce reportage, qu'on entend témoigner. Vous êtes avocat, mais vous êtes surtout habitant de ce quartier. Vous avez vous-même été victime de cambriolage. Une question que je voulais vous poser tout d'abord. Est-ce que vous avez le sentiment quelque part qu'on parle davantage du trafic de stupéfiants à Marseille et que quelque part tous les moyens qui sont mis en place autour du narcotrafic fait que d'autres formes de délinquance dans la ville sont délaissées aujourd'hui?
La politique de Place Nette, c'est une politique qui consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul. 80% des effectifs marseillais, et d'ailleurs dans d'autres cités ou villes, sont affectés au trafic de stupes. Ça permet de faire de la communication au bon marché. Cependant, pendant ce temps-là, c'est open bar pour toute forme de criminalité. La criminalité prospère, il n'y a plus personne pour garder la ville. Je vous donne un exemple. De nuit, il y a 2 patrouilles BAC et il y a 4 patrouilles de police secours. Donc quand vous avez une agression qui se produit quelque part, c'est une concentration de ces effectifs qui sont ridicules, et la police fait bien ce qu'elle peut. On l'a dit, le territoire est extrêmement vaste à couvrir, et pour nous, il n'y a plus personne pour nous défendre et pour nous protéger. C'est-à-dire que c'est une population qui paye beaucoup d'impôts et qui n'a pas accès aux services qu'elle paye, qui est réservée à d'autres personnes. Donc effectivement, on est plus que délaissé, c'est une réalité.
La conséquence de tout ça, c'est que manifestement, vous vous organisez vous-même pour assurer la sécurité du quartier. Ça se passe comment?
C'est très simple. Lorsque nous avons compris que tout le monde était concerné, impacté par le problème dans des proportions assez extraordinaires, d'une criminalité qui dépasse l'entendement et qui a pris de court la police, qui est inquiète aussi, la préfecture, qui s'inquiète, mais pour d'autres raisons. On a mutualisé nos informations. D'abord, on s'est équipé en matériel de surveillance. Les gens sont équipés. Ça coûte très cher. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est on paye déjà des impôts pour rien parce qu'on n'a pas le service. Qui va payer nos équipements? On va demander des dégrèvements. Donc, on s'est équipé, on mutualise nos informations. Il y a des gens âgés qui ne peuvent pas sortir en cas d'agression, en cas d'attaque. C'est des assaillants qui viennent, ce n'est pas des cambrioleurs. Hein. C'est une autre forme de criminalité. On mutualise, c'est-à-dire que les vaillants peuvent sortir, on mutualise les efforts, la solidarité. Bon, ça a créé des liens très forts entre des habitants qui ne s'étaient jamais parlé.
Vous avez conscience du risque qui est pris dans ces cas-là? La violence, qu'elle soit, elle n'est légitime que par la force de l'État, que par les forces de l'ordre, pas par les citoyens qui s'organisent en milice pour se défendre.
Absolument pas. Non, monsieur, ce n'est pas une milice. C'est précisément ce que nous donne comme possibilité le code pénal. Il faudrait le rassurer, il faudrait l'expliquer. On n'a pas à attendre de se faire égorger comme des moutons. Le code pénal nous donne la possibilité, dans le cadre de la légitime défense, de riposter dès lors que la riposte est actuelle et proportionnée. Après, je vais vous dire une chose. Parler de statistiques et venir nous expliquer qu'il faut être gentil, attendre que ça passe et attendre la police, bien des voisins l'ont fait, bien des personnes concernées l'ont fait, sans que la police n'arrive. Et on ne leur fait pas le reproche de ne pas venir. Ils sont occupés à autre chose, à faire de la com pour Place Nette et le narcotrafic. Par contre, pour tout le reste de la population, il ne se passe rien. Ça n'est pas une milice qui part au combat avec des battants en guerre. C'est des pères de famille, des gens responsables qui ont bien compris qu'ils n'avaient pas grand-chose à attendre et qui doivent s'occuper, si je puis dire, en attendant que la police arrive, si elle daigne arriver. Donc, en réalité, on mutualise nos efforts et notre courage et on fait face. Nous n'avons pas d'autre solution. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une discussion, ce n'est pas des statistiques, c'est une réalité, c'est un cauchemar au quotidien. On a appris à vivre différemment, on a très bien compris qu'à ce stade, il y a de la com, mais nous, notre réalité, elle n'est pas prise en compte.
On entend le désespoir qui est le vôtre et ceux des habitants du quartier ce matin, et c'est pour ça qu'on a fait ce reportage par chez vous, et merci d'avoir accepté de témoigner, de donner plus amples explications sur ce plateau. On va commenter avec mes invités autour de la table. Ça vous inquiète de voir que des habitants sont finalement obligés de s'organiser eux-mêmes pour assurer leur sécurité?
Écoutez, alors évidemment...
On salue l'action des forces de l'ordre à Marseille. C'est très compliqué pour eux.
La violence légitime, c'est les forces de l'ordre qui doivent l'exercer, tout ça est vrai. Mais quand vous avez été cambriolé, quand vous voyez ces images, alors je ne légitime pas du tout le fait qu'il faut s'organiser. Mais vous avez déjà, d'ailleurs, d'une manière quasiment légale, vous l'avez peut-être vu dans certaines rues, vous avez voisins vigilants. C'est-à-dire que vous avez des petites pancartes qui sont mises par les communes où bah, vous comprenez que si votre voisin n'est pas là, vous pouvez jeter un coup d'œil sur sa maison. Donc ça veut dire qu'il y a... Alors, je vais vous donner un chiffre, parce que quand même, il faut aussi raisonner large. Je regardais sur les actualités cambriolages, en Moselle, ça explose un peu partout. Il y a eu 569 000 cambriolages l'an passé, c'est plus 21%. Ça fait 560 000, ça fait presque un cambriolage par minute en France. Et à côté des cambriolages des habitations, vous avez quelque chose qui se développe et qui est beaucoup plus facile pour les malfrats, c'est les cambriolages industriels, de boutiques. On en a parlé ici, de buralistes ou autres. Donc, oui, les cambriolages...
Des Restos du Cœur...
Bien sûr, les cambriolages explosent en France. On peut se poser la question, d'ailleurs, sans vouloir en rajouter, mais quand vous allez déplacer des gendarmes qui sont plutôt dans nos provinces, sur les territoires, pour les Jeux Olympiques, et que vous allez alléger le nombre de forces de l'ordre pendant les Jeux Olympiques, il y a peut-être un risque supplémentaire de cambriolage. Donc on est... Alors ça légitime pas du tout le fait qu'il faut... Mais comment vous voulez réagir autrement quand vous êtes touché directement? Vous avez des buralistes qui se sont fait cambrioler une fois, deux fois, trois fois de suite. Vous avez des gens qui se font cambrioler deux fois leurs appartements ou leurs pavillons ou leurs maisons. Donc au bout d'un moment, si vous voulez... Quand ça n'arrive qu'aux autres, vous pouvez avoir un discours en disant, mais quand ça vous arrive une fois, deux fois, parfois avec des violences, réaction.
On ajoute à cela, Guillaume Bigot, que ces cambriolages, maintenant, les cambrioleurs, les délinquants n'attendent plus que les propriétaires soient en dehors de leur maison pour agir. C'est-à-dire qu'ils le font en présence même des propriétaires, avec parfois une extrême violence.
Oui, on se souvient de quelque chose qui nous avait beaucoup marqué. C'était. Le cambriolage de la maison de la famille Tapie, du temps où Bernard Tapie était encore de ce monde. Et ils avaient été sévèrement battus, et notamment Bernard Tapie qui était déjà très malade. Et il avait dit, mais enfin, j'ai tout le temps essayé de prendre le parti des gens qui viennent des cités, etc. J'ai beaucoup agi dans ce sens, et ils l'ont frappé de plus belle en disant, mais ce temps-là est terminé. Donc en fait, il y a deux mécanismes là-dedans. Il y a une violence un peu irrationnelle et sauvage, et il y a le fait qu'ils s'en prennent aussi aux habitants parce qu'ils veulent récupérer des codes informatiques, des codes de cartes, donc ils les font parler. Ils veulent récupérer les codes aussi parfois de coffre-fort, etc. Donc il y a un peu de rationalité. Mais il y a un autre mécanisme qui est une sorte de déchaînement de violence, une sorte d'esprit de vengeance. Et c'est quelque chose qui est... parce qu'on voit que cette montée du homejacking, elle vient dans un paysage global où on voit aussi des violences gratuites monter. Alors, en réaction, je pense qu'il y a vraiment une ligne de crête. C'est-à-dire qu'il faut éviter de tomber dans « on va se défendre nous-mêmes », ça serait catastrophique, bien sûr. Et d'un autre côté, prévenir, alerter les forces de l'ordre, prévenir, voire même, d'ailleurs, il faut bien ne pas oublier, rappeler, qu'on peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger, si vous voyez quelqu'un être attaqué. Et je fais ici allusion à une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, qui se passe dans le métro, je crois, où on voit des gens qui réagissent collectivement au vol d'un téléphone portable. Là, je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, encore une fois, il faut faire très attention à ça, parce qu'il ne faut pas que les gens déclenchent la violence eux-mêmes. Mais en même temps,
les gens doivent réagir aussi.
Le nombre fait force.
Bien sûr.
Dans des sociétés qui restent traditionnelles avec une solidarité importante, eh bien, si les gens réagissent, les voleurs s'écrasent tout de suite.
Dans le reste de l'actualité, c'était hier, un jour de test pour la flamme olympique avant son arrivée le 8 mai prochain à Marseille pour un périple de 80 jours. Un seul et unique jour pour... tout vérifier quant à l'organisation des relais. Ça s'est passé dans le département de l'Aube.
Oui, 400 personnes mobilisées, dont 90 relayeurs fictifs, des policiers et des gendarmes et des dizaines de brouilleurs anti-drones installés. Retour sur cette répétition grandeur nature avec Chloé Tarka.
Un test grandeur nature, mais sans flamme. Hier, 400 personnes, dont près de la moitié étaient des forces de l'ordre, ont sillonné le département de l'Aube. Ils sont là pour tester la protection de la flamme olympique. Autour de la torche en chasuble rouge, 9 policiers et 9 gendarmes. Une simulation qui s'est passée sans accroc.
On a accueilli 90 bénévoles qui avaient été sélectionnés par le département de l'Aube pour être... porteur de la torche, pas de la flamme aujourd'hui. On est vraiment très content parce que il n'y a pas eu de couac. Tout ça s'est fait avec beaucoup de calme.
Une journée importante qui permet notamment de tester la coordination de tout le convoi et donner un peu de joie au public présent sur place.
Les Jeux Olympiques, c'est quand même une dimension internationale, universelle. Et voilà le simple principe dans un test pour les gens de sortir de chez eux et de voir non pas la flamme mais la torche. ça restera un petit moment, c'est des petits moments d'éternité.
Le test n'a prévu aucune simulation d'attaque ou de happening. En fonction du bilan de cette journée, des ajustements pourront être faits pour le vrai relais de la flamme et ses 11 000 porteurs.
La campagne du SIDAction 2024 à présent. Cette année encore, le groupe Canal+ s'engage aux côtés du SIDAction pour soutenir la lutte contre le virus responsable du SIDA. En France, près de 200 000 personnes vivent quotidiennement avec le VIH.
Le sujet reste encore tabou, surtout auprès des jeunes. Alors les autorités misent sur la prévention. Retour sur les chiffres du SIDA avec Chloé Tarka.
40 ans que le sida continue de faire de nombreuses victimes à travers le monde. En 2021, sur 39 millions de porteurs du VIH, 190 000 vivaient en France. Avec les 6,5 millions de tests de dépistage réalisés cette même année, ces chiffres restent sous-estimés.
On estime que 24 000 personnes vivent avec le VIH en France sans le savoir. Et elle est là aujourd'hui, la dynamique de l'épidémie. Les gens qui transmettent aujourd'hui le VIH en France sont des gens qui ne savent pas qu'ils sont porteuses ou porteurs du VIH.
5 000 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2022, dont 14% sont des jeunes de moins de 25 ans. Une problématique médicale mais aussi sociale pour cette maladie encore considérée comme tabou.
Plus de 40% des jeunes de 15 à 24 ans déclarent que s'ils avaient le VIH, ils auraient honte d'en parler à leur entourage. Vous voyez, on est encore sur du dur. Hein. Alors même que aujourd'hui, si vous vivez avec le VIH et vous prenez un traitement, vous ne transmettez pas le VIH.
Au total, 85,6 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. Outre le sida, une augmentation inquiétante des infections sexuellement transmissibles a été observée en Europe. Santé publique France recommande à toutes les personnes âgées de 15 à 70 ans de faire un test de dépistage au moins une fois dans leur vie.
Et pour soutenir la recherche contre le sida, il est possible de faire un don en se rendant sur sidaction.org, en appelant le 110 ou en envoyant don par SMS au 92 110.
C'est l'une des actualités majeures de ces dernières heures, cette attaque terroriste glaçante dans la banlieue de Moscou hier soir. Plusieurs individus armés sont entrés dans une salle de concert bondée où devait se produire un groupe de rock.
Le bilan provisoire annonce plus de 60 morts et 115 blessés. Certains témoins ont filmé ces scènes d'horreur. Regardez.
Évidemment, on reviendra en longueur sur ce sujet à 9h dans l'heure des pros avec Elliot Deval sur CNews et puis bien sûr tout au long de la journée sur notre antenne. On continue à parler de l'actualité internationale au Proche-Orient. Cette fois, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce lundi sur une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Oui, un vote à l'issue incertaine. Hier, déjà la Russie et la Chine ont mis leur veto à un projet de résolution américaine en ce sens.
Harold Iman est donc avec nous pour en parler. Harold, le premier ministre israélien promet d'envahir Rafah malgré les réticences des États-Unis. Quelle est la prochaine étape dans cette guerre?
Donc, c'est cette offensive sur Rafah qui semble se rapprocher. Les États-Unis avaient tout fait pour l'éviter et avaient donc élaboré un projet de résolution pour le Conseil de sécurité de l'ONU qui était consensuel. Et à la dernière seconde, les représentants de la Russie et de la Chine et de l'Algérie aussi ont voté contre. Et l'ambassadrice des États-Unis a bien précisé, nous avons négocié avec vous pendant des semaines, parce que ça se négocie, à 15, et on ne s'attendait pas à cela. Donc voilà qui capote la dernière chance pour les États-Unis d'être à bord, on pourrait croire. La France a avancé un projet parallèle de résolution de cessez-le-feu à Gaza. Et d'autres pays aussi avancent leur projet. Il n'y a pas beaucoup de chances que cela aboutisse facilement. Rafah sur la carte, c'est ce que Benjamin Netanyahou voudrait investir parce qu'il pense que les derniers otages s'y trouvent et que le chef du Hamas militaire Yahya Sinwar s'y trouve aussi, Et il a répété devant Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est au Moyen-Orient, qui était en présence de Netanyahou hier, eh bien, nous aimons l'aide américaine, mais nous irons à Rafah avec ou sans vous.
Merci Harold Iman. Direction le Royaume-Uni à présent, après des semaines de rumeurs, Kate Middleton a enfin donné des nouvelles sur son état de santé. Elles ne sont pas bonnes. Dans une vidéo, la princesse de Galles explique être atteinte d'un cancer. Elle a d'ailleurs commencé un traitement de chimiothérapie préventif.
Kate Middleton demande à ce que sa vie privée soit respectée. On l'écoute.
On pensait que mon état n'était pas cancéreux. L'opération a réussi. Cependant, les tests effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j'en suis maintenant au premier stade de ce traitement.
Et on va retrouver tout de suite notre correspondant à Londres, Olivier Weber. Bonjour et merci d'être avec nous, Olivier. En Grande-Bretagne, cette annonce est évidemment un véritable choc pour tous les Britanniques.
Et oui, justement, choc, c'est le mot qui barre la une de tous les quotidiens britanniques ce matin après cette vidéo. Et une photo, la même photo de Kate sur tous les journaux, les traits tirés, amaigris, presque tristes. Kate qui a donc révélé au monde entier son cancer, sans en préciser toutefois la nature. Il fallait aussi que Kate fasse taire ainsi les rumeurs qui circulaient depuis des semaines sur son état de santé réel. Et finalement, eh bien, on s'en doutait, quelque chose clochait. Désormais, Kate va rester à l'écart des caméras. Kate qui a aussi eu presque des accents de reine Elisabeth quand elle s'est dit solidaire de toutes les familles qui traversent la même épreuve qu'elle, c'est-à-dire l'épreuve du cancer. « Vous n'êtes pas seule, Kate », lui a répondu le journal The Sun ce matin en couverture.
Olivier, plus largement, c'est une véritable crise que traverse la monarchie britannique.
Oui, une crise extrêmement sérieuse. C'est comme une malédiction qui s'abat sur la famille. Rendez-vous compte, depuis un an et demi, depuis la mort de la reine Elisabeth, le roi Charles a le cancer. La princesse de Galles a le cancer. Il ne reste plus grand monde pour s'occuper des engagements royaux. Harry et Meghan sont exilés aux États-Unis. Il ne reste quasiment plus que Camilla, dont le rôle est plus important que jamais.
Olivier Weber, en direct de Londres, merci à vous pour cette intervention et ces explications. Ce matin, on finit avec les sports.
Que vous soyez le roi du design ou la reine des animaux, retrouvez votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Ce programme vous est proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Il nous faut bien un moment un petit peu plus souriant, Marine, ce matin. On va parler de la France qui va affronter l'Allemagne ce soir. C'est du football, bien sûr.
Oui, à un peu moins de 3 mois de l'Euro 2024, l'équipe de France jouera pour la première fois depuis près de 7 ans sans Antoine Griezmann. La France s'offre un test grandeur nature en accueillant ce soir en amical à Lyon l'Allemagne, futur pays hôte. Les Allemands avaient battu la France le 12 septembre dernier à Dortmund, le seul revers des troupes de Didier Deschamps depuis la finale du Mondial 2022. Il y aura donc un petit air de revanche pour les tricolores ce soir à 21h.
Ce programme vous a été proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Que vous soyez la reine de la déco ou le roi du zen, c'était votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Il y aura des jours meilleurs dans l'actualité, probablement des jours plus souriants. On aura le plaisir d'avoir le sourire d'Éric Revel, de Célia Barotte, de Guillaume Bigot, Marine Sabourin et bien sûr Harold Iman. Merci à tous.
Merci
pour cette émission.
Merci.
On se retrouve demain matin pour la matinale week-end, bien évidemment. Et tout de suite, c'est Elliot Deval pour l'heure des pros.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.